Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Pour des indemnités des membres du Conseil national de transition, la Cour constitutionnelle a rejeté une loi votée par le CNT à l'unanimité. Cette loi accorderait des indemnités aux membres de l'organe législatif de la transition. Selon les sages de la Cour, le texte n'est pas conforme à la Constitution. Le sujet défraie la chronique depuis quelques jours dans le pays et les réactions, notamment des responsables politiques, fusent de partout. Certains membres du CNT estiment pourtant qu'il s'agit d'un faux débat. Selon eux, rien n'a été augmenté aux avantages des membres du Conseil national de transition. Comment comprendre donc cette situation? Quelle pourrait être la suite de cette affaire? À défaut d'avoir un membre du CNT sur notre plateau, nous en parlons aujourd'hui avec des enseignants-chercheurs, des analystes également. Il s'agit de Dr Bakabini Keïta. On espère qu'il va nous rejoindre. Soumaïla La, enseignant-chercheur également, et Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur. Ce débat sera animé par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par vous, Soumaïla La. Depuis quelques jours, quand même, c'est ce sujet qui défraie la chronique, je le disais tantôt. Qu'en savez-vous concrètement de cette affaire?
Alors, j'aime bien le dire, c'est encore une incohérence de la part de la transition à un moment où le discours officiel, et comme je l'ai dit tout le temps aussi homologué, c'est la résilience, c'est un Mali, un nouveau Mali, c'est la transparence. Et quand dans ce contexte, vous avez ceux qui sont censés représenter les populations au sein d'un organe qui a été institué à cet effet, s'attribue des mérites, on va dire, qui ne sont pas en phase avec ce qui doit être leur mérite, c'est problématique. Quand vous avez ces personnes qui n'ont pas été certes élues, mais qui ont été désignées sur des bases, suivant une clé de répartition, même si ça a été contesté à l'époque, on suppose que c'est des personnes qui sont là pour appuyer la mise en œuvre d'une feuille de route qui a été déroulée. Donc, suivant cela, et que ces personnes, sur 3 années d'exercice, pratiquement 4 années, aient perçu des montants induits sans base légale, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi cet organe a attendu le fin novembre de l'année 2023 pour faire une proposition de loi pour définir un cadre juridique, donner un support juridique à ce qui est considéré aujourd'hui comme une forfaiture? On se pose la question. Maintenant, quand vous suivez la chronologie des événements, on a l'impression, et c'est là où c'est intéressant et c'est là où c'est très important, que c'est à partir du moment où la justice s'est intéressée à la gestion de l'avant-dernière législature et que des personnes ont été inquiétées, que le CNT s'est peut-être dit qu'il peut être dans la même configuration dans les années à venir parce qu'il n'y a pas de cadre juridique qui régit les sommes qui ont été perçues d'août 2020 à aujourd'hui. Donc c'est problématique. Donc on s'est dit que c'est véritablement à partir de cette période que le CNT dans sa globalité a décidé d'aller vers cette loi. Et ce qui a fait un tollé, c'est que le CNT à aucun moment n'a communiqué sur la proposition de loi. La Constitution, à travers l'article 69, donne la possibilité, en temps normal, à l'Assemblée nationale de faire des sessions soit en plénière, soit à huis clos. Pourquoi sur cette loi spécifiquement, où on parle d'argent, dans une période où on parle de Malicroix, de transparence, pourquoi spécifiquement faire un vote à huis clos?
D'accord, on va en reparler, pourquoi ce vote à huis clos, mais d'abord, est-ce que ces membres du CNT ont droit à ces indemnités, oui ou non? Est-ce que c'est parce que s'ils n'ont pas droit, pourquoi ils n'ont pas droit à cela? Puisqu'ils jouent le rôle de député pendant cette transition, est-ce que voilà, ça, c'est un droit qui leur revient ou bien c'est pas prévu par la
Constitution? Ils ne jouent On nous a fait croire dès le départ qu'il joue le rôle de député. Il y a un imbroglio juridique qui a été sciemment créé.
C'est l'organe législatif quand même.
Ils ne peuvent pas être l'organe législatif juridiquement parce que la Constitution dit que pour avoir un organe législatif, il faut des députés, il faut des gens élus, des gens à travers lesquels le peuple exerce sa souveraineté. Et quand vous lisez l'arrêt de cette même cour constitutionnelle, qui a donné chapitre au CNT, quand la Cour constitutionnelle fait référence au Conseil national de transition, elle dit organe législatif. Et cette même Cour revient dans une autre considération, dire que les membres du CNT ne peuvent pas porter les titres des députés et qu'ils peuvent porter les titres des conseillers. Il y a quelle disposition légale chez nous qui dit qu'un conseiller peut légiférer? Il n'y a pas de disposition légale dans ce sens-là. Donc, à ce niveau, la Cour elle-même est dans une incohérence, mais qui est abyssale. Et je pense que ce type d'incohérence et le fait d'avoir fait subsister la charte à côté de la Constitution qui a amené tout ça. On a créé un monstre et aujourd'hui, personne ne contrôle ces monstres. On s'est mis dans un dualisme juridique qui complique tout aujourd'hui. Donc, dire que ces gens méritent ces indemnités, dans l'absolu, oui. Mais comme on le dit en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La toute première année, je pense qu'ils ont eu tout le temps qu'il fallait pour faire une proposition de loi organique qui allait encadrer les paiements. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? On se pose la question. Pourquoi ils ont continué à se faire payer sans base légale? C'est véritablement ça la question. Donc, la forfaiture, les rencombres ici, c'est là la question. Ce n'est pas tant le fait que les indemnités soient payées. Il faut un travail et tout travail mérite salaire, on est clair. Il y a une disposition légale, mais cette disposition légale est relative aux députés. Pas au conseiller, pas au CNT. C'est là où le problème est survenu. Donc, c'était à eux, dès le départ, de prendre une loi organique et de permettre que cette loi organique régisse leur situation. Et c'est à la toute dernière minute, novembre 2023, on est en avril 2024, donc on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'ils savaient, à l'époque, que la transition allait être prorogée? C'est la question que je me pose. Si, dans le premier délai de 18 mois qui s'est écoulé, ceux-ci n'étaient pas allés vers cette loi organique, qu'est-ce qui se serait passé? La justice allait, voilà, à un moment donné, se saisir du dossier. Pourquoi après le délai de 22 mois, ils ne se sont pas saisis du dossier pour faire une proposition de loi? On se pose des questions.
D'accord. Docteur Keïta, quelle lecture vous faites de cette situation, de cette loi votée à l'unanimité de tous les membres du CNT et une loi qui a été retoquée par la Cour constitutionnelle après?
Merci bien. Bonsoir tout le monde. De toute façon, ils ont l'habitude de voter à l'unanimité. Ils votent tout à l'unanimité. Donc ce n'est pas quelque chose de surprenant. Ce qui surprend, c'est le timing et le silence autour du vote. C'est ce qui pose problème. Effectivement, mon collègue vient de dire pourquoi ils ont attendu ce moment. J'ajoute pourquoi ils ont fait en sorte que ça ne sorte pas. Et pourtant, ils sont très enclins à communiquer. Ils communiquent à tout va. Ils amènent l'ORTM, ils sont sur les plateaux télé. Mais cette fois-ci, c'est silence radio. Heureusement que la Cour suprême a communiqué.
La Cour constitutionnelle
a communiqué. Sinon, on n'aurait pas su ce qui s'est passé. Donc, en ce moment précis, 2024, bon, fin 2023, mais 2024, où on demande aux Maliens de se ceindre les reins, de se serrer la ceinture, d'accepter de souffrir pendant un mois pour le lendemain meilleur, c'est en ce moment on se rend compte qu'ils se sont octroyés des primes qui, normalement, ne leur reviennent pas. C'est ce qui pose problème.
Oui, mais ce n'est pas le seul organe de la transition qui, en tout cas, qui bénéficie de des indemnités, des primes. Il y a d'autres organes aussi. Mais pourquoi on s'en prend au CNT seulement?
D'abord, ce que je viens de dire, le silence autour de ce vote pose problème. Pourquoi? Ils ont gardé le silence. Ils ont fait en sorte que personne ne sache que ce vote est en cours, que ce problème existe. Lorsque les membres de l'ancienne législature se sont retrouvés en prison, il y a le président de l'Assemblée, il y a d'autres membres de l'Assemblée qui sont partis en prison. Je crois que c'est ce qui a sonné l'alerte. On s'est dit, ben, peut-être demain, après-demain, un autre régime viendra et on va regarder dans ces dossiers. Dans le projet, je crois, il y a même une question de rétroaction. Ce qu'ils ont pris depuis août 2020, ce qu'ils ont commencé à prendre depuis août 2020, qu'on prenne tout cela en charge d'août 2020 au moment du vote. Et là, on va être dans une légalité. Alors que normalement, les sommes perçues par les conseillers, ce sont des sommes perçues de façon illégale, sans base légale, sans base juridique. Si vous prenez de l'argent du public sans base légale, vous devez rendre compte. Donc, mais pourquoi le CNT pose problème et pas d'autres organes? C'est le CNT, c'est l'emblème de la transition en réalité. J'ai vu certains parler de la dissolution du CNT. J'ai dit que c'est, de mon point de vue, c'est presque impossible parce que le CNT, c'est l'autre face du régime de la transition. Donc on ne peut pas se défaire du CNT, en tout cas pas à l'État. Donc si on s'en prend au CNT parce que le CNT a perçu de l'argent de façon sans base légale, c'est normal. C'est normal que l'on s'en prenne au CNT parce que c'est l'organe qui joue le rôle de l'organe législatif. Généralement, ils se défendent, les conseillers se défendent en se comparant aux députés qui, eux, sont élus. Mais les conseillers ne sont pas élus. Même s'ils s'arrogent un certain nombre de privilèges, ils s'appellent honorables, ils s'appellent... La Cour a été très claire sur ces questions-là dès qu'elle a été saisie par le CNT.
Voilà. Alors, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de questions. Pourquoi cette loi a été votée à huis clos et pourquoi avoir attendu tout ce temps? Malheureusement, nous aurions préféré avoir un membre du CNT sur ce plateau. Tous ceux qui, en tout cas, tous ceux que nous avons invités ont décliné cette invitation. Malheureusement, nous n'aurons pas leur version, même si certains sur les réseaux sociaux ont fait des publications pour dire que c'est un faux débat, qu'ils n'ont rien fait d'illégal. Alors, Soumaïlala, quand on dit que quand un membre du CNT dit qu'il n'y a rien d'illégal, ce qu'ils perçoivent, c'est leur droit, ça doit leur revenir. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Bon, avant de répondre à ça, je voudrais juste préciser que la Cour n'a pas tout à fait retoqué la loi. La Cour a accepté la requête, mais a juste demandé des modifications qui ont été prises en compte. Et je pense que c'est la Cour qui n'a pas du tout été courageuse sur cette question. Je vais revenir sur cet aspect-là après la réponse à cette question. Les membres du CNT qui disent que il n'y a rien d'illégal et que ce qu'ils perçoivent est légal, je ne suis pas de cet avis. Pourquoi ? Parce que la base qui a été utilisée jusque-là, il y avait une loi organique avant cette loi qui a été proposée par les membres du CNT. Et cette loi organique qui existait avant parlait de députés. Or, les membres du CNT ne sont pas des députés. Donc, partant de là, on peut dire que la base était illégale. Si ils n'étaient pas dans l'illégalité, pourquoi dans la loi organique, ils ont tenu à ce que la loi ait un effet rétroactif? S'ils n'étaient pas dans l'illégalité, c'est une question qu'on se pose. Ils étaient véritablement dans l'illégalité pendant plus de 3 ans. Et je ne sais pas si c'était de mauvaise ou de bonne foi. Peut-être qu'ils ont cru au départ qu'ils étaient des députés. Ils se sont considérés comme des députés. Ils n'ont pas forcément eu la présence d'esprit d'aller vers cette loi organique jusqu'à ce que la justice s'intéresse à la gestion de l'ancienne législature, ce qui a été un déclic chez eux, je suppose. Mais dans tous les cas, ils ont été dans l'illégalité et ils avaient toute la latitude depuis le début de cette transition pour faire une proposition de loi. Une proposition de loi j'ai entendu des arguments selon lesquels la proposition était dans les coulisses depuis le début. C'est faux. Une proposition de loi, si vous voulez, quand c'est pour, on va dire, un aspect aussi important et aussi essentiel au CNT que cette loi organique qui organise les indemnités. Vous pouvez le faire en 2 semaines, en 1 semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une base, un modèle qui était là, et ce modèle, c'est le modèle qui était utilisé pour les députés. Et c'est ce même modèle qu'ils ont pris dans la loi. Il n'y a que de petits changements. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ils ont été dans la forfaiture et la logique aurait voulu que ces gens-là fassent leur mea culpa et disent au peuple, on s'est trompé de bonne foi. Mais ce qui, pour moi, a plus aggravé la situation et ce qui fait que ce n'est pas passé auprès de l'opinion, comme M. Keïta, mon collègue Keïta l'a dit, c'est le fait d'avoir voté cette loi à huis clos. Et une loi organique de ce type, la Constitution dit qu'elle doit être votée à l'unanimité des membres de l'organe. Mais ce qui, là où le bât blesse, c'est qu'ils ont décidé d'aller à huis clos. Pourquoi ? Et pendant pratiquement 6 mois, personne n'était au courant. Il a fallu que la requête fasse l'objet de publication dans les journaux officiels pour que les gens découvrent la réalité. Donc c'est là où on est en droit de s'interroger sur leur mauvaise foi.
Mais est-ce que le fait d'avoir voté ce texte à huis clos ne peut pas entamer la confiance du peuple à ses membres du CNT
C'est une réalité.
Les représenter.
C'est une réalité. La confiance aujourd'hui, elle est déchue. Il suffit juste d'entendre ça et là, ce qui se dit. Les gens... à un moment donné, avait placé énormément de confiance et en la transition et en les institutions de la transition, parce que les discours ambiants, c'était redorer l'image du Mali, lutter contre la corruption, lutter contre les paiements indus, l'enrichissement illicite, etc., etc. On nous a pompé en longueur de journée sur les questions de souveraineté de Malicroix. Et voir une institution qui, pendant 3 ans, a été dans l'illégalité, et sur une question aussi sensible que l'argent, ça joue sur la confiance forcément. Et les émoluments de ce type ont toujours été problématiques. Quand vous prenez la nature des indemnités, quand vous faites les cumuls, mais pendant les périodes de cession, vous vous retrouvez à plus de 2 millions. Et ça, du point de vue du Malien, c'est quelque chose qui ne peut être justifié en ces périodes où l'économie est plus bas qu'éther, en ces périodes où les Maliens ont vraiment des difficultés à joindre les deux bouts, et en ces périodes où vous avez toutes les institutions de la République, d'année en année, qui voient leur budget augmenter. Le CNT est passé de 9 milliards au début à 16 milliards aujourd'hui. Et c'est inqualifiable, c'est impensable. Pendant que vous avez de l'autre côté des hôpitaux qui manquent de tout, des écoles qui manquent de tout, il n'y a plus d'investissement nulle part. C'est là où les gens se disent, mais ils nous prennent de haut, ces gens-là.
Alors, nous avons vu, hein, il y a eu beaucoup de réactions, notamment d'acteurs politiques, suite à cette affaire. Est-ce que vous comprenez ces réactions, docteur Keïta ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que certains acteurs tentent de récupérer cette affaire ?
Si le politique fait de la récupération, il est dans son rôle, mais parce qu'il y a quelque chose à récupérer. Ce qui se joue là, c'est vraiment une question de confiance qui se joue. Nous avons, aujourd'hui, de plus en plus sur les réseaux, sur les médias, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire la comparaison avec ce qui se passe du côté de nos voisins burkinabés, qui en ce moment disent ils n'ont pas d'indemnité hors session. Au moment des sessions, ils ont des indemnités. Après, chacun va à ses occupations. Mais chez nous, le CNT est devenu un cadre professionnel. C'est le travail de certains. Et qui n'ont pas du tout intérêt à ce que ça s'achève. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Ce qui fait qu'on comprend de plus en plus, en tout cas aujourd'hui, au regard de cet événement, on comprend que certains disaient, on va repousser au calendrier grec les élections. Donc, les politiques qui réagissent, nous avons vu notamment Mara qui a réagi, un certain nombre d'acteurs politiques qui réagissent, ils sont dans leur rôle. On entendait avant les 2 millions à l'époque des sessions des membres du CNT, on entendait. Mais sauf qu'on ne prêtait pas suffisamment attention à cela. Les 2 millions et quelques sont composés de quoi et quoi, quoi.
Oui, mais même s'ils sont dans leur rôle, quand même, on sait qu'au Mali, il n'est pas fréquent de voir le Malien renoncer à ses privilèges et avantages. Quand eux, ils étaient, comme le disent certains membres du CNT, certains soutiens de la transition, quand eux, ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas pensé à réduire le train de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'eux aussi, ils n'ont pas totalement, raison?
Est-ce qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs? Lorsque les Maliens sont sortis en 2020 pour dénoncer un certain nombre de situations, il y a une pratique qui revenait. C'est-à-dire, nous avons trop d'institutions inutiles. Il faut diminuer les dépenses, les charges de l'État. Au contraire, nous voyons que ces charges augmentent d'année en année. De budget en budget, ces charges augmentent. De la présidence aux autres institutions, les charges augmentent. Donc, on est en droit de se poser la question si le CNT... Parce que le problème avec le CNT, ce n'est pas qu'ils ont augmenté seulement. Parce que la question qui se pose, est-ce qu'ils y ont droit? Ce qu'ils ont pris depuis 2020, ils le prennent sur la base de quel cadre juridique? Comment est-ce qu'ils peuvent justifier cela? Si demain un autre régime vient, la justice peut aller regarder dans les tiroirs. Et je crois que c'est ce qui fait peur aujourd'hui. Mais si les politiques, parce qu'il faut quand même comprendre que cette transition se positionne en antithèse des politiques et des anciennes pratiques. Donc vous ne pouvez pas justifier vos mauvaises pratiques par ce qui se faisait par le passé. Ils viennent se poser en antithèse.
Au sein du CNT, en tout cas, il y a beaucoup de membres qui étaient des acteurs de premier plan dans la lutte du M5-RFP qui demandaient le changement, qui dénonçaient beaucoup de tares du régime précédent. Alors, Soumaïla, comment comprendre aujourd'hui que ces mêmes acteurs procèdent à de telles pratiques? Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour le pays?
Très, très inquiétant. C'est là où l'incohérence se trouve. On ne peut pas combattre quelque chose et venir refaire la même chose de plus belle. C'est là où c'est vraiment incohérent. Et pour aller dans le même sens que M. Keïta, vous ne pouvez pas justifier cette forfaiture par le fait que ceux qui étaient là avant vous ne sont pas allés dans ces sens. C'est vous qui avez demandé à aller vers les changements. C'est vous qui avez tenu des discours qui allaient dans le sens de l'assainissement des finances publiques, de la lutte contre la corruption. Donc, partant de là, vous devez être exemplaire. Et ils n'ont pas su être exemplaires. Et là, on se rend compte qu'on est plus dans un système de partage de gâteaux qu'autre chose. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Sinon, la logique aurait voulu que ceux-ci, dès le début, renoncent à l'essentiel de leur avantage, compte tenu de la situation du pays, compte tenu du fait que l'essentiel des deniers publics est tourné vers l'armée, est tourné dans la lutte contre l'insécurité, pour la pacification du pays, etc., etc. Ils auraient dû montrer l'exemple dès le départ. Et ça, on l'a dit, on a été constant, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau de la primature, où vous avez des fonds de souveraineté qui ne se justifient pas aujourd'hui en l'état du pays, qui ne se justifient pas, où vous avez ces fonds qui sont pris pour aller vers des œuvres qui ne sont pas pour moi pertinent dans ce cadre. Je ne dis pas que c'est des œuvres qui, de façon temporelle, ne peuvent pas être pertinentes, mais dans le contexte actuel, c'est des œuvres qui ne sont pas pertinentes. Et je pense que, que ce soit au niveau de la présidence, de la primature, du gouvernement dans son ensemble et du CNT, chacun aurait dû faire des efforts. Ailleurs, on a vu qu'il y a eu des efforts et ça paye. Pourquoi, si on fait le parallèle, pourquoi quand les autorités burkinabées ont ouvert un compte aide à la transition, je ne sais plus c'était quoi, je ne connais plus l'intitulé.
L'effort de guerre.
L'effort de guerre, aide à l'effort de guerre, c'est ça, c'est bien ça. Ils ont eu plus de 300 milliards. Ici, nous, on a pas eu 600 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a cette absence de confiance. Et c'était aux autorités de transition de travailler sur cela en montrant l'exemple. Le capitaine Ibé, même si je ne suis pas en phase avec beaucoup de ses pratiques, quand il a annoncé qu'il renonçait à son salaire de président pour se contenter de son salaire de capitaine, ça a créé une certaine confiance entre lui et sa population. C'est ce qui fait que les gens se sont véritablement mobilisés, les entreprises se sont mobilisées. Et c'est ce type d'acte fort que nos autorités auraient dû entreprendre dès le début. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on a l'impression que la montagne a plus que accouché d'une souris.
Alors, vous l'avez dit, hein, et moi je reviens sur ça, c'est quand même rare de voir des Maliens avoir de telles attitudes de patriotisme, renoncer à certains privilèges parce que le pays se trouve dans une situation difficile. Comment inculquer cette valeur aujourd'hui aux Maliens ?
Ça commence par le haut. Toujours, la gouvernance par l'exemplarité, c'est par le haut. Le Burkinabé, ce n'est pas le fonctionnaire burkinabé qui dit « je vais diminuer mon salaire ». Donc, ça a commencé par le président, la transition. Il dit « je renonce à ce que je peux avoir comme privilège légalement. Je renonce ». Alors, nous avons voulu
continuer. Notre président aussi a dédié une partie de son fonds de souveraineté.
Non, ce n'est pas son salaire social, de président. Ça se passe, normalement, ça passe par l'organe législatif qui doit légiférer. On doit savoir. Si tu renonces à une partie de tes revenus, ça passe, ça dépasse au trésor. Donc, je crois que cette question, elle est réglée il y a longtemps. Maintenant, lorsque nous sommes dans une situation aussi problématique qui engage la survie même de la nation, vous ne pouvez pas continuer à avoir les mêmes privilèges que lorsque nous étions dans un semblant de normalité. Ce n'est pas possible. Avoir le même salaire qu'un député, avoir le même salaire qu'un président élu, avoir le même salaire dans une situation d'accalmie, ce n'est pas possible. Nous sommes dans une situation de guerre. Et ça doit se sentir d'abord par les autorités. Moi, si les autorités avaient commencé, on demande aux fonctionnaires, bon, chacun contribue 1000 francs par mois ou 5000 francs par mois, les autres allaient suivre. Donc, ça commence, une gestion vertueuse commence toujours par les autorités qui dirigent, qui gouvernent. Ça ne peut pas commencer par le bas. Et malheureusement ou heureusement, au Mali, le sacrifice a commencé par le bas. C'est pourquoi la question du CNT pose problème aujourd'hui. Les indemnités posent problème. C'est dit, mais nous avons accepté de nous sacrifier. Nous avons accepté de souffrir parce que notre pays est dans cette situation. Et pendant ces temps, ils cassaient du sucre sur nos dos. Donc, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ce n'est pas les fonctionnaires qui se lèvent et qui renoncent. Ça commence par l'organe qui gouverne, toujours.
Ok, après que la Cour constitutionnelle a demandé au CNT d'apporter certaines reformulations, modifications à cette loi, elle a été encore renvoyée au niveau de la Cour constitutionnelle. Quelle pourrait être la suite selon vous, Dr Keïta ?
Alors, quelle que soit la suite à donner à cette affaire, la confiance est déjà entamée. C'est cela le problème. Les gens vont regarder et il va y avoir presque on va regarder le CNT avec dédain. Malheureusement, c'est cela. C'est comme des gens qui vont continuer. Même si la Cour donne son accord, son quitus pour qu'ils continuent de prendre, désormais, ça va poser problème parce que la confiance, elle est entamée. La Cour peut absolument dire, vous prenez ces sommes-là, nous légalisons, même avec rétroaction, nous acceptons, mais ça ne va pas passer du côté de l'opinion. C'est cela le problème. Vous ne pouvez pas nous dire un conseiller à 450 litres par mois, pendant que notre problème énergétique, en partie, est lié à l'absence de carburant dans les générateurs. Donc, c'est là que le problème se pose.
Voilà. D'accord. Soumaïlala, cette action, en tout cas, cette décision de la Cour constitutionnelle quand même a été saluée par beaucoup de gens qui trouvent que c'est courageuse. Est-ce qu'on peut dire que nous pouvons espérer que nous puissions avoir des institutions fortes ?
En l'état, absolument pas. La décision, elle est tout sauf courageuse. La Cour n'a fait que son travail, elle n'a fait que statuer sur une requête. Elle a rendu un arrêt qui a été publié au journal officiel. Point. Et elle n'a pas du tout été courageuse sur cette question pour plusieurs raisons. Mm-hmm. La première raison, quand la Cour elle-même, en fait, tous ces problèmes viennent du fait que la Cour, dès le départ, n'a pas été courageuse, en fait, ne s'est pas assumée. Quand la Cour, lorsqu'on lui a présenter une charte de la transition pour validation, a décidé d'accepter cette charte de la transition à contrario des règles les plus élémentaires du droit, elle n'a pas été courageuse. parce qu'elle aurait tout simplement dû refuser que cette charte de la transition subsiste à côté d'une constitution républicaine. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est vraiment deux choses qui ne vont pas ensemble. Et partant de là, elle a créé un précédent qui est devenu un monstre et elle se retrouve elle-même dans son propre piège. Deuxième raison, quand vous lisez le corps du texte de l'arrêt, vous avez l'impression que la Cour est dans une logique d'arrêt de validation. Mais quand vous arrivez à l'article 9, qui parle de rétroactivité, la Cour, elle pêche. Pourquoi ? Parce que elle crée plus d'insécurité juridique avec cet article 9 qu'elle ne résout le problème. Parce qu'il y a une situation de fait qui est là, hein, une situation de fait qui a déjà produit des effets de droit. Et ces effets de droit sont passibles aujourd'hui d'action en justice. Donc, lorsque la Cour légitime dédouane les personnes qui se sont rendues compte, qui se sont rendues coupables, pardon, de cette forfaiture, la Cour légitime une forfaiture. Premier aspect. Deuxième aspect, vous vous souvenez qu'au début de cette transition, il y a le M5 de l'époque qui a porté plainte contre le CNT pour illégalité et illégitimité. Cette affaire est toujours pendante devant la Cour suprême. Et la Cour crée une insécurité juridique. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle dédouane, ce qu'elle légitime aujourd'hui, aurait pu servir d'argument au juge de la Cour suprême pour statuer et rendre sa décision. Donc, le fait que la Cour aujourd'hui légitime cette loi organique, moi, je pense qu'elle n'a pas été courageuse. Elle a été dans la logique qui a toujours été sa logique, c'est de suivre.
Et elle n'aurait pas dû suivre. N'est-ce qu'il n'y a pas de politique aussi dans ça quand vous parlez de, quand vous prenez l'exemple sur la saisine du M5-RFP, de la Cour par le M5-RFP, les acteurs qui ont porté plainte au niveau de la Cour, ces mêmes acteurs se sont retrouvés dans les organes de la transition. Est-ce que la Cour pouvait trancher, à quoi ça allait
la justice, c'est la justice, elle n'a pas à se mêler de tout ça, même si malheureusement on constate que dans les faits, ce n'est pas véritablement ça. Mais moi, je reste sur les faits. Mm-hmm. Et suivant les faits, la Cour, à travers cette décision, cet arrêt, crée une insécurité juridique. Et comme, encore une fois, Keïta l'a dit, le coup est déjà parti, la confiance est entamée. Et pour moi, il y a une seule chose qui peut permettre de redorer l'image de la transition. C'est quoi ? C'est que le président lui-même refuse de promulguer cette loi. Parce que la Cour, à tous les coups, va valider, parce que le CNT a déjà corrigé les aspects que la Cour a demandé de corriger. La Cour va statuer très rapidement. Et c'est au président aujourd'hui de peut-être prendre ses responsabilités. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais il le faut pour, en tout cas, que la confiance revienne à minima, que le président retoque, encore une fois, cette loi organique et demande à ce que le CNT prenne une autre loi organique où les indemnités seront fortement réduites. On parle d'indemnités de représentation. Ils représentent qui ? Ils ont été élus par qui ? On parle d'indemnités de suggestion. Il y a quel risque qui pèse sur leur tête ? Toutes ces indemnités, c'est des indemnités qui sont dévolues aux députés. Ils ne peuvent pas prétendre à ces indemnités. On peut partir sur la base d'un salaire forfaitaire. Et c'est au président de prendre véritablement cette décision. Dans les faits, c'est compliqué parce qu'on est dans une gestion collective du pays. Et cette gestion collective fait que c'est extrêmement compliqué. Mais pour redorer la confiance, je pense que cette gestion collective doit se réunir, décider et retoquer cette loi.
Docteur Keïta, êtes-vous d'accord avec Soumaïlala que cette décision de la Cour ne peut pas être considérée comme une décision courageuse ?
Parfaitement. Ce qu'il déroule dès le départ. Parce que la Cour
pouvait laisser passer quand même tout cela.
Oui.
Et qu'on ne sache rien de tout cela. Ou bien...
On allait savoir parce qu'on a...
La Cour a l'obligation de faire publier la décision, l'arrêt.
Elle pouvait valider.
Oui. Mais on allait se retrouver dans les mêmes incongruités que le départ. Vous savez, quand la Cour a refusé d'être suffisamment courageuse dès le départ, elle continue à gérer les conséquences. C'est ce qui rattrape aujourd'hui son fonctionnement vis-à-vis de la transition. des organes de la transition. Je suis d'accord quand il parle de bicéphalisme entre la charte et la constitution. Côté de la constitution. C'est quelque chose de presque... Je crois que c'est une première chez nous. C'est une première chez nous. C'est en ce moment que la Cour aurait dû dire ou vous suspendez la transition, on fonctionne avec la charte, ou la charte, on ne l'accepte pas, on continue avec la constitution. Je crois qu'il fallait trancher dès ce moment. Maintenant, par rapport à l'arrêt de la Cour concernant le dossier du CNT, encore, demain, la Cour peut accepter. Si les corrections demandées sont apportées, la Cour peut accepter. Mais le problème n'est même plus juridique. Le problème, c'est comment amener l'opinion désormais à intégrer le discours de sacrifice de résilience prôné par les organes de la transition. Jusque-là, le discours ambiant disait on accepte le sacrifice, on accepte d'être résilient parce que le président lui-même a diminué dans son fonds de souveraineté, même si je l'avais dit, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez plus demander aux Maliens accepter, faites des sacrifices si de l'autre côté, ceux qui gouvernent, personne ne fait de sacrifices. Au contraire. Donc, le problème se pose de ce côté-là, pas seulement du côté juridique, pas seulement du côté des textes. Désormais, la guerre va être la reconquête de l'opinion. Comment reconquérir l'opinion? Alors, ce que le collègue l'a dit, que le président joue le rôle de l'arbitre, dans notre configuration, ça va être extrêmement difficile. Au Burkina, c'est possible, le Burkina a un président. Nous en avons cinq. C'est pas évident.
Officiellement, nous avons un président de la transition.
Oui, officiellement.
Oui.
Quand vous parlez de l'officiel, vous pensez aussi à l'officieux. Donc c'est d'accord. Là que c'est très compliqué.
D'accord. Maintenant, comment éviter que de telles pratiques, sinon de tels couacs, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, si c'est un couac de la transition du CNT, comment éviter que de telles pratiques se reproduisent pendant le reste de cette transition?
Vous savez, c'est pas le premier couac. Les couacs se sont accumulés. Cette fois-ci, peut-être, c'est le couac de trop. Il faut être exemplaire, être conforme au discours que l'on prône. C'est la seule façon d'éviter ce genre d'imbroglio. Être conforme avec son discours, c'est-à-dire prôner une gestion vertueuse des affaires publiques. On ne peut pas dénoncer tout ce qu'on a dénoncé en 2020 et avant 2020 et se retrouver dans les mêmes pratiques. Parce que là, heureusement, le journal officiel a publié, l'arrêt a été publié dans le journal officiel, heureusement, qu'on a été vigilant et on a vu. Les gens ont réagi. Et aujourd'hui, c'est le plus grand débat. Demain, ça peut être la question de l'augmentation du budget d'un organe de la transition, d'une institution particulière. Donc, tant qu'on ne va pas vers une gestion vertueuse, on va se retrouver dans ce genre de travers.
Soumaïla, comment éviter qu'on assiste à de telles scènes encore pendant cette transition?
Il l'a dit, il faut être exemplaire, c'est extrêmement important. Il faut forcément que le discours soit axé sur la pratique, sur le comportement. Et c'est ce qui fait défaut depuis un certain temps. Il y a énormément d'engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été respectés. Et de plus en plus, la confiance s'effrite. Et cette cacophonie autour de cette histoire d'indemnité est une cacophonie de trop, et il n'appartient qu'aux autorités de la transition de trouver les voies et mécanismes pour redorer leur blason. Aujourd'hui, je pense que les Maliens ont été suffisamment résilients et résiliés.
Est-ce que vous pensez que c'est tous les organes qui seront entachés par cette
attaque? Absolument. En fait, il y a ce qui se passe, c'est que on a demandé aux Maliens d'être résilients. La crise énergétique, les Maliens ont été très, très résilients. L'économie, comme on l'a dit, est en grande difficulté depuis un certain moment. Et la crise énergétique est venue mettre une couche de plus. Aujourd'hui, vous avez l'essentiel des entreprises qui fonctionnaient, qui sont en grande difficulté. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont commencé à licencier pour motifs économiques. Vous avez beaucoup d'unités de production qui ont mis leur personnel au chômage technique. Et c'est autant de facteurs qui font que les Maliens, aujourd'hui, ont énormément de peine à joindre les deux bouts. Quand dans cette configuration, vous avez une institution de la République qui touche des sommes induites, qui est dans la forfaiture, vous ne pouvez que vous révolter. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, il appartient à ces institutions de véritablement renoncer à un certain nombre d'avantages qui ne sont pas essentiels jusqu'à la fin de cette transition. C'est extrêmement important. C'est en cela qu'ils pourraient peut-être revoir leur confiance restaurée auprès des populations.
Et c'est ce qui va mettre fin donc à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de cette polémique autour des indemnités des membres du Conseil national de transition. La Cour constitutionnelle a demandé au CNT d'apporter des modifications à une loi votée à l'unanimité, une loi qui accorderait des indemnités aux membres du CNT. Pour en parler, nous avions sur ce plateau Soumaï Lala, il est enseignant-chercheur, ainsi que Dr Souleymane Keïta, également enseignant-chercheur. Dr Bakabini Keïta nous a fait faux bond et toutes nos tentatives pour faire venir un membre du CNT à ce débat ont été vaines. Ce grand dialogue a été réalisé par Emirana Kilumaïga, mise en par Salim Diouara, la régie vidéo. Il y avait Mamadou Ouattara, Sikou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro.